voix nue. Cette semaine, Guillaume Erner rencontre Philippe Val. Ce soir, la caricature et les caricatures.
Charlie Hebdo sous la férule de Philippe Val a changé de nature. Le titre qui était jadis anarchiste est devenu un symbole au travers d'une décision qui demeurera historique, la publication des caricatures de Mahomet. Philippe Val, nous retrouvons pour le quatrième épisode de ce À voix nue qui vous est consacré. On s'était arrêté aux limites que vous fixiez et il y a une date qui, rétrospectivement, apparaît comme une date extrêmement importante dans l'histoire de Charlie. C'est le 8 février 2006. Date de la publication des caricatures de Mahomet. Pourquoi décidez-vous de publier ces caricatures ?
Alors, l'histoire, elle commence pendant les mois qui précèdent, parce qu'il y a une rumeur un peu dans les journaux, pour ceux qui lisent beaucoup les journaux, évidemment, nous, on lisait beaucoup les journaux, mais on voyait qu'il se passait quelque chose entre les pays arabes et le Danemark qui commençait à devenir assez inquiétant. Il y avait quelque chose de bizarre au royaume du Danemark. Et le Jylland Posten avait publié pour un livre d'enfants, un livre pédagogique, des caricatures concernant les religions, enfin bon, et celles concernant l'islam ont fait un énorme problème. Le Jylland Posten était très menacé, Fleming Rose, le rédacteur en chef, et tout ça, il y avait un gros problème. Et on en parlait, c'était un truc très très scandaleux, mais un peu sourd, qui apparaissait parfois dans des gros articles dans la presse, bon mais... Et puis, le patron de France Soir décide de dire, au bout d'un certain temps qu'on en parlait, et que le beurre et les produits agricoles du Danemark, qui étaient sa ressource principale, en dehors des produits miniers, étaient boycottés par les pays arabes, ce qui était un très grave problème, ce qui était un des fournisseurs exclusifs pour les pays arabes. Donc l'économie du Danemark était en danger, ils étaient boycottés dans les supermarchés, enfin ça commençait à bouger, quoi. Le Danemark était dans les soucis, quoi. Et le patron de France Soir, Lefranc, dont l'actionnaire était égyptien, a décidé de dire « Bon, bah, on va informer nos lecteurs du problème. Voilà quelles sont les caricatures qui posent ce problème et qui font que le Danemark a ses problèmes avec les pays arabes. » Il publie les caricatures un lundi et il se fait virer par son actionnaire égyptien le jour même. Incroyable. Il se fait virer. Quatre censures inédites dans la presse française. Enfin, depuis la guerre, on n'a jamais vu un truc pareil. Donc, deux jours après, j'avais une réunion assez habituelle avec des patrons de presse, des amis. On se réunissait pour parler de sujets divers. Pas que des patrons de presse, d'ailleurs, des gens un peu de tous bords, des industries. Enfin, on était un petit club d'une quinzaine. Et j'évoque cette histoire et je dis on peut pas laisser ça comme ça. Le France est fait virer, non mais on peut pas laisser impuni. Et Cabu et moi on y était ensemble avec Bernard Maris. On leur dit on n'a qu'à tous publier ces putains de caricatures, comme ça on n'en parlera plus. Il faut les publier tous, quoi, comme ça. Bon. Surtout qu'il n'y en avait aucune qui était scandaleuse. C'était des trucs, des petits dessins, quoi. C'était pas des. Donc on se met d'accord. Et puis finalement, le mercredi, en conférence de rédaction, j'annonce le truc, je dis voilà, ça va. Je fais une assemblée générale de tous les collaborateurs, y compris des standardistes, tout, enfin, pour leur dire voilà, si vous avez un droit de veto, il y a un risque. Alors il y a une personne qui n'était pas d'accord, mais elle n'a pas voulu user de son droit de veto. Et tout le monde voulait qu'on les publie, parce que c'est un journal de dessin, Charlie. Si on commence à censurer les dessinateurs, on ferme la boutique. Donc tout le monde était d'accord pour publier. Et puis bon, Libé, Los, machin, enfin bon, on se téléphone entre directeurs de journal. Et puis les retours, au début ils sont tous enthousiastes, et puis après il y en a qui se heurtent à leur rédac, qui veulent pas. Parce que ça va offenser les musulmans, donc les rédactions veulent pas. Et d'autres veulent pas à cause de leur actionnaire qui fait du business avec les pays arabes. En l'occurrence, Dassault pour l'Express. Jean Bart tient bon, le patron de l'Express tient bon, et ne prévient pas trop Dassault qui va reproduire les pages de Charlie Hebdo en facsimilé. Dassault est foudrage parce qu'il part 8 jours après avec Chirac pour vendre des mirages en Arabie Saoudite, donc il est hors de lui. Chirac nous condamne sur le perron de l'Élysée, et le scandale éclate très fort. Sarkozy, qui à l'époque est ministre de l'Intérieur, contredit le président en fin de journée et dit non, le droit à la caricature en France, c'est un droit imprescriptible. Donc voilà. Et les organisations musulmanes demandent un référé contre le journal pour le faire saisir. Et ils perdent le référé. là, je commence à être sous protection. Et puis, le procès aura lieu, sur le fond, aura lieu un an plus tard. Et on a donc publié ces caricatures en prenant bien soin de demander à des amis d'origine arabe de présenter et de dire, voilà, dans les pages où on publiait les caricatures, de dire, mais nous les Arabes et les musulmans, on a le droit de rire aussi, hein. On n'est pas des crétins, on peut se marrer avec des caricatures de Mahomet, machin, il n'y a pas de problème. Et ils expliquent pourquoi c'est nécessaire qu'en France on puisse le faire. Et puis bon, je fais l'édito et tout, c'était un vrai gros travail éditorial, très très respectueux des croyants, mais critique de l'islam.
Est-ce que vous avez eu des doutes à ce moment-là, Fidival ? Est-ce que, en votre fort intérieur, vous avez hésité ? Ou bien est-ce que c'était évident pour vous qu'il fallait le faire ?
C'était évident qu'il fallait le faire. D'ailleurs, mes confrères en convenaient. Bref, il y a eu beaucoup de débats. Il y a eu énormément de débats. Et puis, le procès, un an plus tard, était un procès sous haute tension, qu'on a beaucoup préparé avec mon avocat Richard Malka et Georges Kejman. On voulait absolument le gagner, on l'a gagné, et on a fait cadeau de notre victoire aux journaux, aux écrivains, aux créateurs, parce que ça affirmait notre liberté de dessiner, de penser, notre liberté de conscience. C'était vraiment une belle victoire, et les attendus du tribunal disaient qu'on avait participé de façon très constructive au débat démocratique, enfin... Voilà. On avait fait venir à la barre des intellectuels musulmans, un grand intellectuel iranien, Mehdi Mazafari, qui était un type formidable, et Claude Lanzmann, il y avait notre ami Medeb, qui était France Culture, et il y avait plein de témoins, Elisabeth Badinter, et c'était vraiment un grand moment de réflexion magnifique sur la liberté de la presse.
Des politiques témoignent également durant ce procès.
François Hollande vient témoigner pour moi et François Bayrou. Un type de droite, un type de gauche, voilà. Et sans que l'on lui demande, spontanément, Sarkozy, qui a témoigné par lettre, lorsqu'il était candidat à la présidentielle. Ça, alors là, ça a été la surprise du tribunal. Et c'était assez étrange parce que c'est là où la tartufferie est quand même... Nous, on était... on voulait gagner. Mais on est resté tel qu'en nous-mêmes pendant le procès. C'est-à-dire qu'on a dit des choses énormes qui faisaient parfois rire beaucoup l'assistance. Et le président du tribunal était très sérieux et n'aimait pas trop ça. Mais quand lui-même éclatait de rire, ça devenait un problème. Et à un moment donné... Il décide d'une interruption de séance pour qu'on se repose un peu, parce que c'était très long, ce procès, pour qu'on boive un petit coup, puis qu'on aille aux toilettes. Et comme la salle d'audience est extrêmement bourrée de monde, moi j'étais sur le banc des accusés, et les parties civiles, on était coude à coude pour sortir de la 17e chambre correctionnelle. Et je me retrouve au coude à coude avec l'avocat de la Ligue islamique mondiale, qui est une émanation du wahhabisme, qui avait porté plainte aussi contre nous. Et cet avocat, dans la foule, me murmure à l'oreille un truc, comme on était pressés l'un contre l'autre, il me murmure un truc à l'oreille incroyable, il me dit « Monsieur Val, je suis d'accord avec rien de ce que vous dites, mais j'aimerais bien être votre ami. » Incroyable. Donc, vous voyez, le rire, ça peut tellement gagner des choses si les gens sont un peu sincères avec... Et le mec, il s'était marré par moment. Il pouvait pas faire autre... Il voulait pas rire, mais il a fini par rire parce qu'il s'est laissé surprendre. Et ça, des fois, je repense à ça et ça donne un peu d'espoir. Je me dis, mais comment on pourrait rire avec celui-là pour qu'il arrête de nous emmerder.
Comment évoluait le journal Charlie à cette époque-là, Philippe Val, pendant l'année donc antérieure au procès et puis après le procès, parce que du coup,
le journal marchait bien. Le journal faisait des bonnes ventes. On avait augmenté notre portefeuille d'abonnés. Et la vente en kiosque, alors aujourd'hui, à l'époque c'était une vente normale, mais aujourd'hui ça fait rêver l'Express, l'Obs, Libé et tout. On vendait 60 000 en kiosque. Aujourd'hui, quand un journal vend 15 000 en kiosque, 20 000, il est content. Donc on était un journal financièrement tout à fait confortable.
Et l'atmosphère intellectuelle du journal, le fait que soudainement...
Là, sur les caricatures, les dessinateurs se sont sentis blessés par cette atteinte à leur liberté. Donc, ils étaient à fond. Ils ont été très solidaires, très créatifs. Mais c'était une belle équipe. Hein. Ils avaient vraiment, ils ont toujours d'ailleurs beaucoup de talent, enfin, ceux qui vivent encore. Ils avaient beaucoup de talent et le journal était bon.
Et le fait que le journal devienne un autre symbole, parce que vous avez pris Charlie Hebdo, c'était un titre satirique, avec le procès sur les caricatures, et évidemment, il devient le symbole d'autre chose.
Voilà, je vois depuis longtemps évoluer la situation, et mal évoluer la situation dans nos banlieues et dans nos pays arabes. En plus, j'ai l'avantage d'avoir beaucoup voyagé à travers la France, dans tous les milieux, pendant énormément d'années. Donc, en général, quand je discute de ce qui se passe dans les banlieues périphériques, etc., c'est des endroits où j'ai beaucoup travaillé. Donc, je sais à peu près de quoi je parle. Et je sens qu'il se passe quelque chose de très grave. Et je dis, voilà, ça va mal tourner, toutes ces histoires. Il faut qu'on devienne un journal vraiment, vraiment capable de répondre à des questions compliquées sur la laïcité, comment on peut vivre ensemble de façon décente, comment on peut éviter la haine et la remplacer par des discussions, comment on doit être le journal porteur d'une nouvelle façon de se parler pour éviter le pire. Et avec ce qu'on vient de faire, c'est possible. Alors Cabu était à fond avec moi, on en a beaucoup parlé, mais j'ai pas soulevé l'enthousiasme en disant ça. J'ai senti que j'étais allé assez loin comme ça, avec cette histoire de caricature du prophète. Et que dans l'équipe, il y avait une bonne partie de l'équipe qui disait « Bon, maintenant, stop. » J'ai senti que j'avais pas le consensus avec moi. Et bizarrement, c'est après ce succès, parce qu'il y a eu un film là-dessus, on y a été sélectionné à Cannes, on a monté les marches. Enfin, c'était super marrant pour cette équipe de Charlie de devenir tout d'un coup une équipe de gens qu'on saluait dans la rue, on leur disait merci, c'est super ce que vous faites. Donc, c'était une grande période pour les gens de Charlie, je pense. Et comme j'étais très, j'avais beaucoup d'opposition sur des thèmes comme l'Europe, comme Israël, j'ai senti que je pouvais pas aller plus loin avec eux. Et c'est après le procès des caricatures que j'ai décidé de partir.
Ça entérine, en quelque sorte, votre éloignement de la gauche, j'allais dire de la gauche radicale, mais progressivement même peut-être de la gauche tout court, Philippe Val.
Non, parce que moi, j'ai pas changé. La gauche, elle a changé. Moi, j'ai pas changé. Moi,
j'ai parlé d'éloignement. Je n'ai pas dit lequel des deux avait changé.
La gauche s'est éloignée de moi, mais moi, je me suis pas éloigné de la gauche. Maintenant, quand j'entends les discours de Benoît Hamon, pour moi, c'est des choses qui me sont complètement étrangères. Enfin, la gauche robespierriste, déjà, quand j'avais 20 ans, elle me sortait par les trous de nez.
Mais à l'époque, elle était marginale. Ne brûlons pas les étapes. Lorsqu'arrive le référendum autour de la Constitution européenne, Philippe Val, eh bien, à ce moment-là, vous êtes plutôt pour le oui.
Ah, moi, je ne suis pas plutôt pour le oui, je suis profondément européen. Je suis viscéralement européen. J'aime l'Europe, mais vraiment d'un amour d'enfant. J'ai appris l'allemand quand j'étais gosse. J'aimais l'Europe. Pour la même raison, d'ailleurs, que j'aimais Israël, qui pour moi est un pays d'Europe. C'est des pays de liberté, avec des gens instruits. Et je rêve que d'une chose, c'est que le monde ait cette liberté et cette instruction. Donc, je suis un amoureux de l'Europe. Et je sais très bien, je connais la construction européenne. Je sais ce que c'est. J'ai étudié la construction européenne. J'ai étudié le projet de constitution. Et je pense que c'est un facteur de paix. Et de société non moins violente, de société plus juste, j'en suis persuadé encore aujourd'hui. L'Europe est un continent de bâtards. C'était le bout du monde, l'Europe. Pendant des siècles, les gens qui fuyaient les oppressions venaient là, à tort ou à raison, parce qu'ils en trouvaient d'autres en arrivant. Mais il y a eu tellement de gens mal nés, des gens, des étrangers, au fil des siècles qui venaient là, depuis les Juifs des premiers siècles qui vont jusqu'en Espagne. Ça a tellement été des bâtards. L'Europe est un continent de bâtards. Et les bâtards sont les seuls à pouvoir inventer du droit universel, du droit pour tous. C'est les seuls qui ont ça dans le sang. Et l'Europe, c'est le continent des gens qui pensent le droit pour tous. Et on s'est fait tellement la guerre. Je me suis dit, mais cette construction européenne, c'est tellement une invention politique, tellement belle, tellement, tellement forte, qui doit faire l'objet de débats, de débats contradictoires sur des tas de points. Mais c'est tellement indispensable que évidemment que je suis pour la constitution.
Mais à l'époque, une bonne partie de la gauche, elle est contre.
Mais ça commence là. D'ailleurs, avec Internet, tout ça, on voit arriver un nouveau type de campagne avec les fakes, avec des fake news. C'est la première fois que dans un débat supposé démocratique, je vois des gens mentir. et être de mauvaise foi. Et alors que dans une démocratie, on peut vraiment s'empoigner, s'engueuler, mais généralement les gens qui s'engueulent, s'engueulent de bonne foi. Et là, j'ai voyé des gens qui ne disaient pas ce qu'ils pensaient vraiment. Je pensais qu'ils savaient qu'ils mentaient.
Moi, c'est à qui ?
Bah, plein de gens, par exemple, sur l'avortement, ce qu'ils disaient, sur la suppression de l'avortement. Enfin, je ne connais plus les noms, mais le mec de Marseille, dont j'ai oublié le nom, qui est ressorti, là, il est assez intelligent pour savoir qu'il disait n'importe quoi. Chevènement aussi, mais ce n'est pas la même chose. Chevènement est plus respectable, peut-être, mais des gens, des intellectuels comme Mélenchon, Fabius, il savait très bien qu'il disait n'importe quoi. Il était élevé par Mitterrand, qui est un des fondateurs. Dès le début, en 47, Mitterrand fait déjà partie du mouvement des Européens. Donc, il est un enfant de Mitterrand, il fait ça, mais c'est vraiment... Et en plus, l'Internet balance des tas de choses débiles sur l'Europe. Et puis, des gens qui voient ça à gauche se rendent compte que, comme les chefs d'État qui allaient à Bruxelles faire des concessions eux-mêmes, revenaient en disant « Ah oui, mais c'est Bruxelles qui nous a obligés. » Ils ont fait naître chez les gens simples, enfin les gens pas très instruits ou qui lisent pas beaucoup les journaux, une haine de l'Europe qui était une haine mensongère, enfin une haine basée sur un mensonge. C'est eux, c'était les vrais élus qui l'ont fait, l'Europe. C'est pas des bureaucrates qu'on fait Bruxelles, c'est des élus. Donc, ils se déchargeaient sur Bruxelles comme une entité. Ils ont été traîtres à l'Europe. Ils ont fait quelque chose, ils ont fait la plus grande trahison politique depuis la Seconde Guerre mondiale.
On vous a connu chansonnier, on vous a connu également créateur de titres, et là, on vous retrouve, au fur et à mesure où l'on avance dans les années 2000, sur le terrain de la bataille d'idées, et il y a une autre polémique qui va naître, c'est celle du licenciement de Ciné au sein de Charlie Hebdo, une date qui est restée comme celle de l'affaire Ciné en juillet 2008. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé à cette époque-là ?
Oui, enfin, moi j'analyse ça comme le retour de bâton de l'affaire des caricatures, parce que ça a été tellement populaire, cette publication des caricatures et ce procès. Les gens nous ont soutenus, et dans les médias, et dans le monde politique, les gens qui ne nous aimaient pas l'ont mis en veilleuse, parce que, courageusement, on va pas contre l'opinion générale, parce qu'on risque de... Bon. Mais dès que la poussière est retombée... Alors, Ciné avait déjà fait pas mal de choses qui nous ont opposés. Il avait participé avec Dieudonné au Palais des Sports à une liste Euro-Palestine, où ils avaient fait sur scène huer des personnalités avec des non-juifs. Donc là, j'avais demandé qu'ils s'excusent. Enfin, plusieurs fois, il y avait eu des histoires avec Ciné. Et donc, là, il a fait un truc, il a fait une colonne... où il y avait une tonalité antisémite, moi que je ne veux pas supporter. En plus, les personnes concernées étaient une famille de déportés.
Alors, il était question, pour le rappeler aux auditeurs, du fils de Nicolas Sarkozy, qui
voulait se convertir au judaïsme.
Enfin, ça, c'était ce que disait Ciné.
Oui, pour épouser une riche héritière.
L'héritière d'Arty.
Héritière d'Arty juive.
Voilà. Pour ne pas la nommer.
Il réussira ce petit. Enfin bon, les juifs et l'argent, quoi. Si vous voulez, truc antisémite classique, la base de la propagande antisémite. Hein. Et puis, il n'y avait pas que ça. Il y avait des dessins en dessous, entre une palestinienne magnifique et une juive rasée horrible. Il disait entre les deux, il n'y a pas photo. Enfin, vous voyez, enfin bref. Un truc dégueulasse.
Quoi. Bref, vous considérez, Philippe Val, qu'il s'agit d'un dessin antisémite et vous décidez de virer Ciné.
Non, ça se passe pas du tout comme ça. Je dis à Ciné, si tu t'excuses pas, la famille d'Arty va porter plainte. Moi, je vais pas au tribunal pour ça. Ou alors, si j'y vais, je demande à être condamné lourdement au péril du journal parce que je pense que ça mérite d'être condamné lourdement. Donc, tu t'excuses. Dans un premier temps, il dit oui, je vais m'excuser. Et puis, le rapport de force, 15 ans avant, était sans doute plus en ma faveur. Mais là, il s'est trouvé dans Paris suffisamment de gens de presse, des intellectuels, des Edgar Morin, des Guy Bedos, des gens comme ça, pour soutenir Ciné. Et quand il a vu que le rapport de force était en sa faveur médiatiquement, il a dit maintenant, finalement, je vais pas m'excuser. Donc, je l'ai viré.
On le défendait sur quel thème ?
L'argument pour dire que... Ah, c'est très simple, l'argument. Ah, c'est Ciné, quoi. C'était l'argument. J'en ai jamais entendu d'autres. Ah, c'est Bob, il est comme ça. Non, oui, mais non, enfin, voilà. Alors bon, j'ai viré un monument historique, hein, mais tant pis.
Au sein du journal, comment ça se passait?
Moi, j'étais prêt. J'avais prévu de partir déjà depuis. Je suis pas parti à cause de l'affaire Ciné, puisque je préparais mon départ déjà depuis un an ou deux. Depuis l'affaire des caricatures, je savais que j'allais partir. Et donc, je suis resté plus longtemps à cause de l'affaire Ciné, parce que on était tellement attaqué que je pouvais pas partir en pleine bagarre. Le journal était trop en danger. Donc, l'équipe était d'accord pour qu'on le vire. Et Charb a eu beaucoup de courage parce qu'il était très très proche de Ciné. Ils étaient très amis. Et Charb était d'accord pour qu'il soit viré et n'a pas suivi. Et Ciné lui en a voulu à mort. Et ça a été une souffrance entre eux, pour les deux, je pense.
On vous a accusé, on vous a soupçonné, je ne sais pas quel verbe employer Philippe Val, d'avoir fait ça parce que vous souhaitiez être agréable à Nicolas Sarkozy.
Mais c'est complètement con, parce que il m'a appelé Sarkozy à ce moment-là pour me dire « Vous avez été courageux, je vous remercie, etc. » Je lui dis « Mais j'ai pas fait ça pour vous, je n'aurais pas été votre fils, serait né n'importe qui d'autre, j'aurais fait la même chose. » À chaque fois, il y a eu la même procédure pour Ciné, et à chaque fois, ça s'est résolu de la même façon, à savoir qu'il s'est excusé, et on a passé l'éponge, et il est resté plusieurs années sans recommencer. Là, il s'est pas excusé, je l'ai viré. Puis quel ascenseur j'aurais renvoyé à Sarkozy, pourquoi ? J'avais pas d'ascenseur à lui renvoyer.
Pourquoi aviez-vous décidé de toute façon de quitter Charlie et en quoi considériez-vous à l'époque, Philippe Val, que votre place là-bas, elle appartenait au passé ?
J'aimais beaucoup les gens du journal et même mes opposants et j'aimais beaucoup le journal. Mais je voulais partir parce que, après l'affaire des caricatures, j'ai fait une proposition de développement du journal, d'améliorer, à mon sens, à mes yeux, d'améliorer le journal, et j'ai pas eu le consensus pour ça. Et donc je me suis dit, ça fait 17 ans que je dirige, je suis usé, si je peux pas avoir le consensus sur ce développement du journal, ça veut dire que je peux plus rien faire, moi je peux pas juste venir gagner ma vie dans un journal, si c'est pas l'aventure. Donc j'ai dit, je vais m'en aller, parce que je peux pas tenir une boutique, il faut que ça vive et que ça évolue. Donc j'avais décidé de partir, après cette affaire des caricatures, j'ai eu l'opposition d'une partie de la rédaction qui était assez importante, suffisamment importante pour que je me dise, il faut que quelqu'un d'autre dirige le journal, sinon il va pas rester vivant le journal.
Vous souhaitiez donner le flambeau à Charb ?
Dans mon fort intérieur, non. C'est pas parce que j'aimais pas Charb, j'aimais beaucoup Charb, et puis vraiment on s'opposait, mais on riait vraiment beaucoup ensemble. On a eu des fous rires inextinguibles, donc au fond, on s'aimait bien, et quand on s'est revus après, on était toujours heureux de se revoir, mais... Il n'était pas un meneur d'hommes, Charb. Il était un idéologue. Il était un très très bon dessinateur d'humour et politique, mais c'était pas un patron de bande. Enfin, et je pensais que intellectuellement, Rhys était mieux bâti pour ça. Cabu et moi, on pensait que Rhys, qui est un peu trop ours peut-être pour être chef de bande, mais il avait beaucoup de qualités pour être directeur d'une rédaction comme ça. Parce que il est très journaliste, beaucoup de culture, des tas de réflexes journalistiques, ce qui n'était pas du tout le métier de Charb. Charb était un chroniqueur en dessin, excellentissime, mais chroniqueur en dessin. Est-ce que Rhys avait une vraie vision du journal? Enfin, il avait bien compris tout ça, quoi.
Vous quittez Charlie avec un pincement au cœur, vous vous demandez ce que vous allez faire après, ou vous saviez déjà à l'époque que vous alliez faire de la radio, que vous alliez diriger une radio?
Non, pas du tout, je savais rien du tout. Quand j'ai décidé de... D'abord, sans trop de pincement au cœur, parce que au début, je pense qu'Abu, il veut absolument que je continue à faire la page 3 en étant parti... je dis, écoute, si je m'en vais, peut-être que ça sera pas la 3, il faudra peut-être donner l'édito à quelqu'un d'autre, faut voir, il y aura une période de transition, mais bon. Donc au début, je m'en vais, mais je continue à écrire dedans, c'est ce qui est prévu. Et puis finalement, je sens que ça va pas être possible, que ça va créer quelque chose de trop compliqué à gérer. Donc voilà. Mais je pars pas avec un pincement au cœur, parce que c'est très difficile à gérer Charlie pendant 17 ans. Presque 20 ans, parce qu'en réalité, il y a la grosse Bertha avant qui n'était pas de tourpeau non plus. Donc, j'ai des propositions de boulot diverses. Puis c'est tout. Après, c'est après qu'on me fait la proposition au France Inter.
La question, là aussi, d'une part de votre, de vos moyens d'existence, puisque il vous faut vivre, de la propriété du titre Charlie, puisque là aussi il y a eu une polémique après sur le capital. Qu'est-ce qu'il en est advenu? Donnez-nous votre version, Philippe Val.
Bah, la version, elle est simple. C'est la version fiscale. C'est-à-dire que on était majoritaire, Cabu et moi. On avait créé le journal et on avait tout payé nous-mêmes. Alors, sauf que ces petits sous qu'on a mis dedans, ils étaient devenus des gros sous, quoi. Et personne n'a voulu mettre de l'argent là-dedans. Et plus tard, les actions sont devenues hors de prix. Quand on a voulu céder deux fois, avant l'affaire Ciné et après l'affaire Ciné, aux jeunes qui étaient là. On a voulu leur céder le journal.
Donc les Chars, Brice et...
Luz, machin, Biard, enfin tout ça. Maryse. Maryse faisait partie du capital. Et puis, le fisc, tout ça, on a pris un avocat fiscaliste pour faire ça dans les règles, et il nous a dit, voilà, vous devez vendre vos actions au prix. Vous avez le choix, les vendre au prix commercial ou les vendre à la valeur comptable. Donc, le prix commercial, c'est monstrueux. Le journal coûtait 15 millions d'euros à l'époque. Donc, on l'a vendu au prix commercial. Mais il a fallu faire descendre le prix des actions, puisque les dessinateurs... Il a fallu qu'on touche des dividendes, ce qui est une façon de récupérer notre argent investi qui avait fructifié, là, bon, pour le meilleur et pour le pire, mais il a fructifié. Donc on a fait ça en deux fois, parce que la première fois, ça a capoté. Les jeunes, finalement, n'ont pas voulu. Donc on l'a fait une deuxième fois. On a refait une distribution de dividendes qui a fait la page 2 du Monde, ce qui est scandaleux, parce que c'était juste... on a fait ce que le fisc nous a dû de faire. Sinon, le journal n'était pas cessible. Et c'était pas de notre faute si le journal avait de l'argent. Donc on s'est retrouvé à toucher, c'est vrai, des gros chèques. Mais c'était le seul moyen de pas les faire payer eux. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le payer. Pour tirer dans la propriété du journal, l'argent en France, ça circule pas comme ça. Enfin, le fisc est là pour tout surveiller. Donc on a fait ça dans les règles, mais vraiment tout est vérifiable. Alors évidemment, la bande a signé, et puis fait en sorte que ça soit un scandale financier, on se soit bourré, qu'on ait pris le pognon, enfin toutes ces histoires ridicules, parce que c'est tout faux, c'est complètement faux, quoi.
Fin de Charlie, on se retrouve demain, Philippe Val, pour parler notamment de votre direction d'une radio France Inter, pour ne pas la nommer. Merci Philippe Val.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Guillaume Erner avec Philippe Val. À voix nue, réalisation Lionel Quentin, prise de son Philippe Mercher, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.